Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Jolie rentrée à vous. Je commence donc, comme je vous l'ai exposé dans ma chronique, je commence cette série d'interviews par des intervenants dans l'architecture, qui travaillent un peu à l'export. Alors j'ai souhaité aujourd'hui recevoir Jean-Marc Lalot. Bonsoir. Bonjour Jean-Marc, pardon.
Bonjour Myriam.
Alors Jean-Marc est un peu à commencer à travailler, et en tout cas son métier d'architecte d'une manière un peu atypique. Vous avez commencé par être ingénieur, hein. L'architecture est venue un peu sur le tard, hein.
Oui, j'ai commencé en entreprise. J'ai commencé même d'abord comme maîtreur, puis conducteur de travaux. Et ensuite, le désir d'architecture, qui était mon premier souhait, je l'ai réalisé en reprenant les études à 32 ans et en travaillant tout en même temps, en faisant ces études.
Donc ça veut dire d'abord avoir conscience de la matière,
oui,
avant de...
Oui, c'était ça, oui.
Et donc, peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous passez à l'export d'une manière peut-être un petit peu plus facile que d'autres,
oui,
c'est ça ?
Oui, oui. La première expérience, je n'avais pas été déçu parce que c'était la rénovation d'un cinéma à Kaboul, en Afghanistan.
Mythique.
Et sur lequel, effectivement, il fallait ajuster le projet architectural aux moyens disponibles sur place après 30 années de guerre. Et c'était en 2002. On l'a livré en 2004, donc c'était rencontrer les entreprises, ne pas faire un projet qui soit détaché.
Donc c'était le développement moyens, durable, non dit, avant l'heure, quoi.
Peut-être, oui.
Le recyclage.
Et c'était, oui, comment rénover un lieu public, le faire d'une manière aussi le plus proche possible d'une identité afghane. Qu'est-ce qu'un cinéma afghan? Qu'est-ce qu'un lieu public afghan? Et puis ensuite, c'est encadrer des travaux. Une principale difficulté, c'est encadrer des travaux avec des entreprises dont on n'a pas toujours des bureaux d'études avec nous, et avoir des principes de bon sens, je dirais, qu'amène bien souvent effectivement l'expérience de chantier précédente. Oui.
Et alors, donc ça, c'est une expérience qui a fait que ça, vous avez quand même été un petit peu reconnu. Sur le sujet, c'est-à-dire que reconnu comme pouvant travailler à l'export sur des objets qui ne soient pas des grands bureaux, parce qu'aujourd'hui, l'export, c'est un petit peu le savoir-faire français des grandes entreprises du BTP. Donc, c'est des tours de bureaux, c'est l'ingénierie française, aussi des gares, etc. Donc là, vous étiez plutôt dans espace culturel, espace public. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu cette notion ?
Oui, en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, cette première expérience de cinéma, je me suis aperçu, enfin, j'ai vécu là ce que pouvait être la création d'un lieu public dans un pays où ça n'existait plus, en tout cas. En fait, mis à part, il y a quelques restaurants.
Pour les hommes.
Pour les hommes, principalement aussi. Et c'est de travailler sur cette question des lieux où se rencontrent des personnes le plus largement possible, intergénérationnelles, au-delà des classes sociales, socioculturelles, et de là...
C'est-à-dire qu'il y avait un café aussi avec le cinéma, il y avait un lieu de rencontre.
Non, on n'avait pas pu le faire, en fait, là, parce qu'il y avait des cafés autour, donc on s'est dit, on ne va pas amener de concurrence.
Oui, bien sûr,
Et puis, mais c'était de là, en fait, est venue cette prise de conscience de créer un cinéma, en fait, un lieu de... C'est une fenêtre d'échange avec d'autres cultures, d'autres pays. Et de là, en fait, a démarré toute une série de rencontres aussi avec des cinéastes, des réalisateurs, des artistes. Celui qui a suivi, c'était avec Ito Barada, une photographe marocaine, pour faire la cinémathèque de Tanger. Mm-hmm. Ensuite, avec Abderrahmane Sissako à Bamako, en fait, rénover un cinéma à Bamako.
C'est ça. Donc, du coup, après, il y a eu un enchaînement.
Voilà. Et puis, un engouement aussi, parce que ces réalisateurs, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants, enfin qui ont des messages.
Qui n'ont pas toujours de l'argent.
Pas toujours d'argent, c'est de comment lever des fonds, comment arriver à créer un cinéma. On parle beaucoup de production de films, mais c'est aussi le lieu ensuite à la fin, pour ne pas finir toujours sur le petit écran, et d'ailleurs des écrans qui grandissent, donc ça repose la question de ce que c'est que ce
qu'est un cinéma aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui en Afrique, tout le monde a évidemment un téléphone style iPhone, enfin, oui. Et donc du coup, ce rapport à l'écran, au grand écran, au petit écran, il se fait comment? Parce que justement, la high-tech, c'est d'avoir obligatoirement son ordinateur, son téléphone. Parce que c'est aussi une manière de se représenter comme étant moderne.
Oui, oui, c'est vrai. En fait. C'est-à-dire que là, principalement, en fait, je travaille en, fait, en Afrique de l'Ouest. Tous les cinémas avaient disparu dans les années entre 90 et 2000. Ils ont tous fermé, en fait. Hein, une conjonction en fait, d'augmentation du coût foncier, en fait, les CD, en fait, le piratage, etc. Mmh. Donc aujourd'hui, avec le numérique, au contraire, donne une deuxième chance, enfin une nouvelle chance et une nouvelle dimension en fait, à ces lieux de cinéma, avec la possibilité de recevoir des films en direct, le même jour
sortie. Que dans le monde entier. Ouais.
Et ça, du coup, ça place les cinémas comme des lieux très actuels, des lieux contemporains et qui peuvent accepter aussi, accueillir en fait, d'autres activités, comme des retransmissions, des coworking, des espèces de sessions de réunion
d'accord.
à distance.
Et donc la Coupe du Monde d'Afrique de football, exemple, quand même, voilà. Par exemple,
absolument,
hein, c'est ça?
Oui, oui, oui.
Parce que quand même, on sait que le football et l'Afrique, c'est quand même une très, très belle histoire. Et pas tout le monde peut prendre des billets, c'est quand même
c'est
un
sûr.
Coup. Regarder ça sur le petit écran de la télé ou du téléphone, c'est pas la même chose. Et alors, donc, de fil en aiguille, vous avez, par hasard, travaillé aussi à l'export sur une usine de coton.
De coton,
au Mali,
oui.
C'est ça?
C'est ça, oui, au Mali, c'était...
C'est un très beau projet.
C'était un beau projet parce que c'était la volonté de le CMDT, la compagnie malienne de développement du textile, en fait, du coton, en fait, et de créer des usines qui ne soient pas de simples... boîte à chaussures, enfin comme il le disait, parce que même si on construit en dehors des villes et loin des villes, avec les années, ça agrège des habitations et ça devient une ville. Et du coup, ces usines se retrouvent en cœur de ville. Et donc là, il y avait une volonté d'avoir une dimension architecturale sur ces installations et de travailler sur les énergies renouvelables. Donc l'un plus l'autre, c'était quelque chose qui était passionnant pour un
bien
architecte.
Sûr. Et assez innovant quand même.
Innovant,
pour des pays,
en fait. Donc c'était travailler déjà dès le plan masse aussi, proposer d'intégrer, parce que c'est des grands bouts de territoire, en fait, ces usines, c'est 25 hectares. Alors qu'on utilise le tiers, non, il y a des réserves foncières pour d'autres installations ultérieures si... Le développement du textile se fera un jour en Afrique, justement, et sans doute prochainement, très prochainement. Mais c'était d'intégrer aussi une économie paysagère, aussi d'économiser l'espace aménagé et de faire entrer la brousse dans la parcelle même de l'usine. Et après, d'avoir une espèce d'interface justement,
entre
ce qui est construit de ce qui ne l'est pas. Et ça, ça devenait intéressant, et d'autant plus pour une institution sur l'agriculture, en fait, qui s'adresse à des...
Et alors justement, on parle d'agriculture et, disons, de matériaux biosourcés et un peu écologiques. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est pas une usine empisée, comment ça se fait?
Alors, malheureusement,
ça passe pas bien,
non,
c'est
oui, ça demande un petit peu de temps. Enfin, jusque-là, alors, il y a beaucoup d'expériences qui se
c'est
font avec
les constructions
en terre.
C'est peut-être juste un snobisme français.
Voilà, il faut se méfier aussi un petit peu de soi-même. On est tous architectes ou étrangers, en fait, on est fascinés par les matériaux locaux, en fait, hein, la terre, cette terre rouge, la territe, en fait, qui est incroyable. Alors, on arrive à le faire sur d'autres, par exemple sur un cinéma au Burkina Faso, on va le faire, où on va démarrer également un siège de bureau à Bamako, la façade sera en pisé. On commence à avoir aussi, parce que c'est tout le process, évidemment, de validation, comment dire, des matériaux, de la tenue des matériaux, de leur pérennité.
Ouais,
donc, alors, il y a des bureaux d'études qui se sont installés. Il y a le Cratère, qui est assez connu en France, qui travaille à l'étranger. Et puis maintenant, il y a quand même... Il y a deux choses. Il y a d'abord une diaspora aussi africaine qui revient en Afrique avec des ingénieurs, des gens très, très bien formés et qui veulent travailler sur ces questions-là, matériaux biosourcés, économie d'énergie, et ensuite de créer des entreprises aussi pour répondre à ces nouvelles pistes, en fait.
Donc ça fait encore plein de pistes de nouveaux projets.
C'est beaucoup, beaucoup de pistes. En fait, là, on parle de 25 mégapoles, de 25 millions d'habitants d'ici 2050. Donc, il y a une grande exode rurale. On sait que les choses peuvent aller très vite, comme on l'a vu en Asie. Sur l'Afrique, il y a peut-être, là, je crois, une prise de conscience qui s'est faite par une diaspora, justement, sur l'environnement.
Alors, qui dit diaspora dit formation, qui dit formation dit école. Vous pouvez un petit peu évoquer votre travail que vous faites Il y a un Erasmus à Dakar, ce que je ne savais absolument pas. J'aurais bien aimé un petit peu avoir des précisions sur ce passage de savoir. Hein.
Oui, en intervenant sur ces projets en Afrique de l'Ouest, j'ai pour habitude d'aller à la rencontre des écoles d'architecture. Et j'ai vu qu'il y a de grandes difficultés sur la formation. Il y a une école centrale qui est au Togo, à Lomé. Et petit à petit, il y a des écoles qui ouvrent dans chacun des pays pour former des architectes, parce que c'est un très grand besoin qui est de plus en plus crucial. Là, on a démarré effectivement un programme Erasmus avec l'école de Dakar, le Collège universitaire d'architecture de Dakar, où on associe pendant une période architectes français, architectes non seulement sénégalais, mais d'Afrique de l'Ouest, à travailler sur un projet. Et à terme, en fait, de l'année prochaine, il y a des échanges d'étudiants avec quelques mois à Paris, quelques mois à Dakar, pour arriver à mieux former, mieux faire comprendre les enjeux intercontinentaux, des questions environnementales,
bien
et
sûr.
Comment mieux former les architectes.
Pour éviter que les architectes
fassent des projets qui soient détachés,
voilà,
justement d'une réalité, d'une actualité, et notamment justement sur ces matériaux.
Oui, c'est ça, qu'on ne soit pas non plus dans une architecture de mode, mais plutôt une architecture proche des sources, des pays.
Absolument, oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, beaucoup de choses sont importées aussi en Afrique.
Bien sûr.
Tout ce qui est ciment, l'acier, beaucoup de choses. Donc, c'est penser à ces dimensions-là, penser à tout ce qui peut être fait d'une manière très locale et qui a tout de suite un intérêt évidemment économique, mais aussi qui offre une pérennité et puis une architecture plus adaptée, non seulement aussi faite avec ses matériaux locaux, mais aussi au climat.
Alors, c'est une future formidable entrée en matière que votre intervention ce matin. Et je pense qu'on refera un petit point peut-être, je ne sais pas, dans 6 mois, un an, histoire de voir comment s'est passé ce voyage à Dakar avec vos étudiants et justement un retour d'expérience sur ce partage formidable.
Avec plaisir, ça sera la 5e édition.
Merci Jean-Marc Lalo, merci à vous.
Marianne. Merci.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.